C'était un beau pays que je ne nommerai pas. On y passait 30 mois ou de vie à trépas, ou de vie à trépas. C'était un beau pays près de la Tunisie, mais à cause des ciseaux de Dame Anastasie, de Dame Anastasie. Je ne peux le nommer, apprenez toutefois qu'on y perdait notre temps en même temps que la foi, qu'il y avait du sable, des pitons et des rocs, et que ça n'était pas non plus loin du Maroc. Nous aussi nous marchions, et parfois ventre à terre, on dit crapahuté en langage militaire. Oui, nous aussi marchions profondément humains, des paumes au plat la gueule, des fusils plein les mains, des fusils plein les mains. Seulement à cette époque, et les temps ont changé, on disait d'un chanteur qu'il était engagé, qu'il était engagé. Qu'en fais-tu d'un treillis et de chaussures à clous? Il était comme nous dans la merde jusqu'au cou, dans la merde jusqu'au cou. Que faisaient en ce temps les rythmeurs condottières qui grippaient au Vietnam à l'abri de leurs frontières? On entendait alors qu'un sinistre silence, aucune chansonnette pour faire des turbulences. Car eux aussi marchaient, et parfois ventre à terre, on dit crapahuté en langage militaire. Oui, eux aussi marchaient profondément humains, des paumes au plat la gueule, des fusils plein les mains, des fusils plein les mains.
On vient d'entendre « Nous aussi, nous marchions », une chanson écrite et interprétée par Serge Tisserand, qui ouvre le film « Avoir 20 ans dans les Aurès », le film de René Vautier, qu'il a réalisé en 72. René Vautier, ce cinéaste militant, s'il en est, résistant à 15 ans, militant anticolonialiste à 22 lorsqu'il réalise « Afrique 50 » en 1950. Il épouse la cause et la lutte du peuple algérien. Il va participer à créer la première étape d'une organisation cinématographique algérienne. Et il fera aussi, enfin, il luttera contre bien d'autres maux, et notamment en Bretagne, puisqu'il est breton. Et sacrément breton, ça aussi c'est un de ses combats. Donc on l'avait rencontré lors d'un festival, les premières journées cinématographiques dionysiennes, donc c'était au cinéma L'Écran à Saint-Denis, c'était le 3 mars 2001, et on avait avec nous d'ailleurs Daniel qui était à l'époque dans l'émission Vive la Sociale, Vive la Sociale qui est sur cette antenne deux jeudis par mois à 19h. Et donc on l'avait interviewé assez rapidement parce qu'il n'avait pas trop de temps à nous consacrer, mais il nous en a quand même consacré un petit peu et c'était un beau moment. Donc il commence par nous parler un petit peu de son parcours.
J'ai eu la chance ou la malchance d'avoir 14 ans, 15 ans quand la France était occupée. J'avais un groupe de copains qui étaient des petits boy scouts, des petits éclaireurs de France, des éclaireurs laïcs. C'est important de le dire, laïcs, parce qu'en Bretagne, la notion de laïcité est importante face à l'Église. Donc on était laïcs et on est devenu très normalement, collectivement résistant. Et d'ailleurs, le groupe a été ensuite le seul groupe de jeunes à ma connaissance. Le clan éclaireur de France de Quimper a été le seul groupe de jeunes à ma connaissance qui a été cité alors de l'armée pour fait de résistance, alors qu'on était tous pratiquement sans attendre même la fin de la guerre, on était devenus antimilitaristes. Quoi. Mais moi, on m'a un petit peu reproché d'avoir, en dehors de mes activités de piqueur de grenades dans les dépôts de munitions allemands, j'alimentais le groupe en grenades parce qu'on avait fait des plans des dépôts et qu'on savait comment entrer dedans pour les prendre. Bon, mais ensuite, j'étais aussi chargé d'entretenir un petit peu la flamme dans le groupe en lisant des poèmes. En lisant des poèmes de résistance. Au départ, ça a commencé avec des poèmes de Victor Hugo sur la résistance aux Prussiens. J'avais trouvé ça quand j'étais en quatrième au lycée. On avait un prof qui nous avait appris ça. Bon, on avait organisé des petites soirées poétiques, quoi, le cercle des poètes. Et puis, on avait fait la liaison avec les activités de résistance, c'est-à-dire que je recevais aussi un certain nombre de... J'étais un petit peu l'aboutissement d'une chaîne basée sur les lettres françaises clandestines, sur... J'avais 15 ans, 16 ans en 44, donc ces activités-là, plus les activités grenades, ça a duré jusqu'à ce qu'un jour je m'aperçoive de l'effet que ça faisait les grenades quand ça arrivait sur un gars en face. Et le gars avait beau avoir un uniforme vert de gris, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit « bon, ben, il faut que je trouve autre chose parce que les armes, c'est fini ». Alors les copains m'ont dit « mais tu ne vas pas arrêter de te battre quand même, on a des choses pour lesquelles les copains sont morts, il faut que… » Je dis « d'accord, mais je vais trouver quelque chose d'autre, mais pas en tuant ». Bon. Et puis un copain qui m'a dit, bah tiens, si tu allais faire du cinéma, tu devrais apprendre à faire du cinéma parce que là, ça permet de raconter ce qu'on pense, de le faire connaître à beaucoup de gens. Et puis, je dis, bah pourquoi pas. Et ils m'ont expédié un petit peu un coup de pied dans le derrière, passé le concours d'entrée à l'Institut des hautes études cinématographiques. J'avais 17 ans quand je me suis inscrit, c'était en 1946. J'avais 17 ans quand je me suis inscrit parce que j'étais trop jeune. Alors, on a quand même admis un petit peu parce qu'il y avait la Croix de Guerre, parce que ça aurait fait bien peut-être d'avoir un jeune qui... Bon, j'ai passé le concours d'entrée, très logiquement, et j'ai été reçu premier à l'écrit. Mais tout ça parce que j'avais la trouille que les copains, si on ne m'admettait pas à l'IDEC pour faire ce qu'ils me demandaient de faire, j'avais la trouille qu'ils me foutent du pied dans le derrière et que, bon, je n'aimais pas ça, quoi. Voilà, j'avais été 6 fois au cinéma dans ma vie quand j'ai passé le concours d'entrée à l'IDEC parce que ce n'était pas pour faire du cinéma comme les autres, quoi. C'était pour... Alors là, ils avaient trouvé dans ce que je leur lisais, dans les vers, ils avaient trouvé un truc qui convenait parfaitement. C'était « je filme ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai ». Elle m'a dit « et tu continueras comme ça ». Bon, alors j'ai commencé. Quand j'étais encore à l'IDEC, je me suis fait virer pendant 8 jours de l'IDEC parce que j'avais été filmer les grèves en 47, les grèves du Nord, les grèves des mineurs, et que je m'étais aperçu d'un certain nombre de choses qui n'étaient pas conformes à ce qu'on racontait. Donc, j'étais un petit... Le petit loufia dans le truc, hein. J'étais chargé de ramener les bobines tournées, de collationner ça, de ramener ça au montage. Bon, et puis j'étais le seul, parce que j'étais peut-être un petit peu plus con que les autres, j'étais le seul à être arrêté. J'étais arrêté parce que je m'étais endormi dans un endroit que l'armée a pris. Les CRS, les flics ont pris un local syndical à Dunkerque, et je dormais dedans parce qu'on préparait, j'étais là pour préparer des prises de vue pour le film qui s'est appelé La Grande Lutte des Mineurs. Bon, on a envoyé tous mes papiers à l'IDEC en disant « sanctions à prendre » parce que, d'une part, il s'est enfui du commissariat en laissant ses papiers derrière lui, d'autre part, qu'est-ce qu'il foutait à Dunkerque alors qu'il est étudiant et qu'il a des cours qui doivent... Bon. Et on a dû réunir le conseil d'administration de l'IDEC. Et c'était au moment où il y avait où il y avait un petit peu la chasse aux communistes, dont il y avait les ministres communistes qui avaient quitté le gouvernement, et on repérait les gens qui étaient en place de pouvoir, comme les directeurs de l'IDEC, par exemple, et Jean Lotz, qui était communiste, a dû réunir le conseil d'administration, qui m'a viré pour absence illégale. On m'a suspendu de cours pendant 8 jours. Et seulement, il a rajouté sur le papier où il me signifiait que je n'allais pas me présenter au cours pendant 8 jours. Il m'a rajouté, après avoir vu les choses qu'on avait tournées, il a mis « avec les félicitations de la direction ». Alors ça compensait quand même un petit peu, quoi. Et puis je suis sorti de l'IDEC, j'ai fait les stages qu'on fait. Et il y avait quand même une chose qui m'était un petit peu restée dans la tête aussi, c'est qu'au départ, les films que l'on tournait avec les syndicats, on n'avait pas besoin de visa, on n'avait pas besoin de demander le visa pour que les syndicats puissent les projeter dans des séances syndicales. Donc, on était absolument libre de tourner et de montrer, à condition que ce soit aux adhérents. Mais à la suite de ce film, La Grande Lutte des Mineurs, il y a un décret qui a été pris par un certain nombre de ministres et qu'on a appelé le décret Jules Moch, parce que c'était Jules Moch qui était ministre de l'Intérieur et qui interdisait toute projection de films non munis d'un visa, dit visa non commercial. C'est-à-dire que les syndicats pouvaient parfaitement engager des frais pour faire un film pour leurs adhérents, mais ils ne pouvaient le projeter que si le gouvernement était d'accord pour... Et c'était signé parmi les ministres, c'était signé d'un monsieur, on l'appelait décret Jules Moch, parce que Jules Moch, c'était... On avait fait une affiche dans le film Jules Moch, le menteur, le ministre de l'Intérieur, qui disait dans les manifestations des mineurs, c'est... les premiers coups de feu, il y avait eu des morts par balles, les premiers coups de feu, disait le ministre, ont été tirés des rangs des manifestants. Et une quinzaine de journalistes avaient édité à leurs frais, y compris des journalistes de presse filmée qui étaient là avec leurs caméras, mais qui travaillaient pour la Fox Movieton ou pour qui ont accepté de mettre leur nom sur une affiche qui s'intitulait Jules Moch le menteur. Et où il disait, il n'y a aucun coup de feu qui est parti des rangs des manifestants, ce sont les gens d'en face, c'est-à-dire les forces de l'ordre, qui ont tiré et qui ont tué. Bon, et là, il y a quand même une chose importante, c'est que ce décret a été pris, a été signé, ce décret qu'on appelait, nous, décret Jules Moch, a été signé et préparé par le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des questions de l'audiovisuel. Et qui s'appelait François Mitterrand. Ouais. Bon, alors, déjà, il y avait une...
Ouais.
Et ensuite, j'ai été amené à faire des films,
Juste sur le visa, ouais. Ça veut dire que certains films n'ont pas pu être diffusés, des films à cause d'une...
Absolument, absolument. Il y avait le visa commercial pour les projections dans la salle, et il y avait le visa non commercial pour les projections... Les projections organisées par les syndicats ou par les associations. Parce qu'auparavant, les associations pouvaient aussi tourner des choses pour leurs adhérents. Or, maintenant, là, il y a eu ce décret qui a été catastrophique sur le plan du cinéma social en France, parallèlement au cinéma italien. Le cinéma italien, il y avait des projections de quartier. Il y avait des gens qui tournaient des films sur les grèves, sur les luttes, mais avec leurs petites caméras qu'ils projetaient entre eux. Mais des grands réalisateurs italiens venaient voir ces films-là. Il y avait donc l'intermédiaire entre l'expression ouvrière et puis la représentation du monde ouvrier dans les films sociaux italiens. En France, on a complètement supprimé ce marchepied-là. Et donc, ça a été... Et bon, et moi, j'avoue que je n'ai pas accepté que ce soit... Donc, ensuite, il y a eu d'autres problèmes quand on m'a expédié pour la Ligue de l'enseignement. On m'a dit, est-ce que vous voulez, vous, le petit boy scout, est-ce que vous voulez tourner un film sur la vie réelle des paysans d'Afrique occidentale française ? bien sûr. C'était formidable, c'est le premier film que je pouvais faire comme réalisateur. Avant, j'apprenais mon métier, comme les stages ou je faisais de l'assistanat. Là, je devenais assistant, je devenais réalisateur, j'avais 21 ans. Et je suis donc parti tourner Afrique 50. Au départ, c'était un film pour l'enseignement dans les lycées et collèges. On m'a simplement dit, tu filmes ce que tu vois et tu ramènes pour qu'on monte le film. Bon, là-bas, j'ai eu des problèmes parce qu'il y avait un décret aussi. Pierre Laval, ministre des colonies, en 1934, ce décret, on l'appliquait contre moi en 1949 parce que je tournais les choses qu'il ne fallait pas tourner et que le décret Pierre Laval, c'était interdiction de tourner à travers tous les territoires français d'Afrique si on n'a pas une autorisation spéciale du gouverneur. Et il faut en plus que pendant les prises de vue, les prises de vue soient effectuées en présence d'un représentant de l'autorité, donc d'un représentant de l'administration. Donc il n'y avait plus aucune liberté de tournage. Bon, évidemment, j'ai refusé en disant aux gendarmes qui venaient me signifier l'existence de ce décret, je leur ai dit, écoutez, c'est un décret Pierre Laval. Pierre Laval a été fusillé pour avoir pris des décrets de ce genre, et moi, on m'a collé la croix d'air parce que je violais d'autres décrets Pierre Laval en 1944. Alors, foutez-moi la paix, je tourne. Et j'ai tourné, et puis je suis rentré après. Bon, il y a eu bien sûr des tas d'aventures qui sont d'ailleurs racontées dans un bouquin qui s'appelle Caméra citoyenne et qui passe aux éditions, qui est sorti des éditions Apogée, notez bien. Et donc, un bouquin de René Vautier. Et puis, je suis rentré, j'avais 13 inculpations qui allaient de l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État à tournage de films sans autorisation du gouverneur, violence sur la personne d'un représentant de l'autorité, parce que quand tu es amené, par honnêteté, à refuser de respecter une loi, y a des tas de gens qui sont là pour te la faire respecter. Tu entres en conflit avec eux. Quand tu trouves un gars qui te pique tes pellicules, sans te dire pourquoi, il les prend. Bon, tu te bagarres, il tombe par la fenêtre, il se casse un bras. Tu apprends après qu'il est inspecteur de police. Tu vois donc, tu deviens hors la loi. Et j'avoue que sur ce plan-là, je pense encore à l'heure actuelle que pour tout ce qui est de social, pour tout ce qui est d'image qu'il faut garder, qu'il faut enregistrer, eh bien, pour moi, ça a été une évidence, il fallait toujours se trouver hors la loi. Et hors la loi, ça veut dire que dans les manifestations, on te donne, quand j'étais à l'IDEC, on m'a appris, on va te donner un brassard si tu veux tourner dehors. Mais il faut que tu fasses une demande. Tu veux tourner quoi ? Je dis, je veux tourner une manifestation anticolonialiste. C'était encore à l'IDEC. Hein. La manifestation des étudiants, ça doit être le 21 mars, je crois. On me dit, tu fais une demande à la préfecture de police. Je dis, moi, je ne fais pas, c'est à l'IDEC de faire ça, parce que c'est pour l'IDEC que je vais tourner, parce que c'est mon film de... On me dit, je vais donc tourner ça. Je vais donc avec le brassard qu'on m'a donné, avec l'autorisation que l'IDEC avait demandé pour moi. Mais quand tu te retrouves au milieu des flics, en 48, des flics qui disent, en se parlant entre eux, Olbico d'en face, la manifestation des étudiants anticolonialistes se préparait en face. J'étais moi avec mon brassard et ma caméra au milieu des flics. Et j'entendais les flics qui disaient « Oh, le bico qui est là en face, laisse-le moi, tu vas voir, commandant. Oh, le négro qui est là, laisse-le pour moi. Le viette qui est là, bon, là, t'enlèves ton brassard. » Et tu le leur balances à la figure, mais pour eux c'est une provocation et tu passes en face avec ta caméra. Mais même avec ta caméra, quand tu es en face et qu'ils chargent, tu deviens une cible. Tu vois ? Bon, seulement, on a toujours, j'ai acquis la certitude que pour faire des images honnêtes, il fallait accepter d'être une cible. Parce que les gens des services d'ordre sont en général là pour t'empêcher de faire des images du côté des gens à qui tu veux donner l'image et le son. Et puis j'ai continué, et puis voilà.
Et transmettre la mémoire également. Donc on va aller, puisqu'il y a un problème de temps, on va passer au deuxième maintenant, conserver la mémoire de ces images qui sont des mémoires de lutte.
Alors,
donc tout à l'heure, tu parlais d'une société qui est, dont l'ancien président du CNPF est président. Tu peux nous raconter
Oui. Sur le plan conservation de la mémoire, quand tu tournes des images qui ne peuvent entrer nulle part, parce que tout est fait pour que la mémoire soit tamisée dès le départ. Sur le plan des images en France, tout est fait pour que les images soient, la mémoire soit tamisée dès le départ. Il y a un monsieur Filloux, ancien ministre, qui était devenu directeur de l'Institut national de l'audiovisuel, et qui dit que l'Institut national de l'audiovisuel, c'est le dépositaire de la mémoire en images de la France. Ce qu'il ne dit pas, c'est que dans le règlement intérieur de l'Institut national de l'audiovisuel, il est écrit « On ne peut admettre à l'Institut national de l'audiovisuel que les images qui sont passées sur les chaînes de télévision françaises ». Bon, autrement dit, toutes les images interdites à la télévision, elles sont interdites de mémoire. Tu les gardes dans un coin, on te donne des locaux. Quand j'arrivais à 60 km, 80 km d'archives à moi, tout orienté du même côté. C'est vrai, mais il y a d'autres qui faisaient des choses en face. C'était déjà la notion d'expression plurielle que je défendais à ma façon. Donc, on me donne un truc en Bretagne, chez moi, pour que je conserve la pellicule. C'est au Conservatoire du Littoral. Il y a un fort qui a été acheté par le Conservatoire du Littoral au milieu des dunes. Ils ne savent pas qu'en faire. Ils disent, ah ben, Vautier, il a besoin de trucs. Qu'on colle sa pellicule là-dedans, on va la conserver. Il y a un gardien, il y a un truc. Bon, je tourne des images d'Algériens qui ont été torturés par Le Pen. Le Canard Enchaîné a un procès parce qu'il a traité Le Pen de tortionnaire. Le Canard Enchaîné me demande de venir projeter les images devant la 17e chambre correctionnelle à Paris. J'arrive, je projette les témoignages d'Algériens qui disent « Oui, nous avons été torturés par un monsieur qu'on reconnaît sur la photo, c'est monsieur Le Pen, il a été lieutenant de parachutiste, on a été torturé à telle date, on a été dans... » Bon, on dit, le président dit à Le Pen « Je ne peux pas tenir compte de ces images, mais enfin, elles existent quand même. Et peut-être qu'il vaudrait mieux que vous portiez plainte. » Je n'ai pas le droit d'en tenir compte parce qu'il y a la loi d'amnistie qui interdit que l'on parle de tout ce que les gens ont pu faire de coupable pendant la guerre d'Algérie, en particulier quand ils portaient un uniforme. Donc, je n'ai pas le droit de tenir compte des images, mais elles existent. Vous devriez, si vous voulez vraiment être blanchi de toute accusation, porter plainte pour faux témoignage. Mais à partir de ce moment-là, attention, parce que les gens qui ont fait ces images et les témoins qui parlent peuvent être amenés à prouver que ce n'est pas des faux témoignages, mais des vrais. Là, vous ne pouvez plus. Et Le Pen dit non, il y a la loi d'amnistie, ça me suffit. Mais quand je rentre en Bretagne 10 jours après, le Conservatoire du Littoral, les portes du fort ont sauté, et à l'intérieur, j'ai 60 km d'archives qui sont détruites. Or, les archives que j'ai sur la guerre d'Algérie, ce n'étaient pas les seules archives que j'avais. Il y avait aussi toutes les archives sur le mouvement social. À partir du moment où on s'aperçoit qu'on peut les détruire dans ce qui n'existait qu'en un exemplaire, parce que je n'avais pas le rond pour tourner en négatif, sauf ce que j'avais tourné comme film monté, comme film qui était déposé dans des laboratoires. Et là, alors, il y a une autre façon. Il y a des gens qui se sont présentés sur le lit de mort de notre directeur de production et qui lui ont dit, voilà, on veut acheter tous les films pour les préserver, pour vous avez besoin d'argent pour... Le gars n'est pas le droit de les vendre parce que dans notre unité de production Cinéma Bretagne que nous avons créée pour faire des films de ce genre, les réalisateurs restaient seuls propriétaires de leurs films. Ils pouvaient, et il fallait, pour la moindre utilisation du film, il fallait la signature du réalisateur. J'étais aussi producteur, puisque j'étais responsable de la coopérative de l'unité de production Cinéma Bretagne. Or là, le gars se présente devant quelqu'un qui n'a pas le droit de vendre, et qui dit « j'ai pas le droit de vendre ». Il dit « non, mais tu mets ta signature, tu as les tampons de la société, tu vois. Bon, ça va, nous on déposera, on aura la signature des réalisateurs après ». Bon, et le gars signe, et le gars meurt. Et je m'aperçois, moi, un an après, que tous les films que j'ai tournés sur le colonialisme, sur les luttes sociales en France, sont devenus la propriété d'une société show-off. Et derrière la société show-off, au Centre national du cinéma, on me dit, il y a la famille Sérac. La famille Sérac, c'était François Sérac, qui était patron, ancien patron du CNPF. C'était Pierre Sérac, patron de la secte Moon, et puis élu du Front National, député européen du Front National, qui se retrouvait propriétaire des films militants que j'avais faits avec les ouvriers. Et il a fallu plaider pendant 10 ans Et au bout de 10 ans, on a réussi à obtenir que la société Shaw soit mise en faillite et surtout qu'on récupère tous les droits des films au nom, qui sont remis au nom des réalisateurs. Bon, mais c'était en 97. Or, entre-temps, on s'aperçoit que pour tous les négatifs qui étaient dans les laboratoires, à la limite, je peux retirer des films, sauf un. C'est avoir 20 ans dans les ORES. Pourquoi ? Parce que avoir 20 ans dans les ORES a été glissé. Quand la société Shaw sentait qu'elle allait perdre le procès, elle a glissé dans une autre société les titres de propriété sur les négatifs. Donc je suis propriétaire des droits en tant que réalisateur reconnu, mais le négatif, l'utilisation du négatif dépend maintenant de quelqu'un qui a racheté la société et qui s'appelle TF1 International et qui a le culot de me proposer un contrat en me disant, moi je suis très fier que le film, le premier film sur la guerre d'Algérie qui laissait parler les appelés, qui était basé sur des témoignages d'appelés et de rappelés, que ce film-là était un film tourné par une unité de production cinéma Bretagne. Parce que je crois qu'on a des choses à dire à l'échelon de la Bretagne, que d'autres peuvent dire à l'échelon de l'Occitanie ou que d'autres peuvent dire à Paris. Mais on est, quand on est en contact avec les gens qu'on veut refléter, on est quand même protégé par eux. On est protégé sauf quand on s'aperçoit que la loi est toujours du côté du fric. Et que là, ils disent « on a acheté ». Donc on est propriétaire. Vous êtes auteur, réalisateur, d'accord, mais vous ne pouvez pas tirer une seule copie sans notre accord. Nous ne pouvons pas utiliser le film non plus. Ce qu'on cherche, ce qu'ils cherchent à la limite, c'est justement que le film ne puisse pas ressortir. Et là, il y a une loi qui, effectivement, leur donnait raison, sauf qu'on peut prouver maintenant aussi, mais il va falloir replaider, plaider pendant 10 ans. Il y a des avocats qu'on paye. On a eu l'appui de la SCAM, la Société Civile des Auteurs Multimédia, pour ces plaidoiries, parce que c'était défendre le droit d'auteur. Maintenant, il faut défendre la propriété matérielle sur un... Bon, et là, si je suis obligé d'enfreindre la loi une nouvelle fois, oui, qui me reprochera si je fais voler les négatifs pour avoir le droit de tirer des copies? Bon, mais c'est comme ça qu'on fait les hors-la-loi. J'ai tourné un film qui s'appelle La Folle de Toujane, et le sous-titre de La Folle de Toujane, c'est « Comment on devient un ennemi de l'intérieur ?» Je ne suis pas au départ, j'étais pas... Et je viens d'avoir un truc alors qui m'a fait beaucoup plaisir aussi. C'est « Je suis complètement athée ». J'ai reçu une lettre dernièrement me disant « Vous êtes dans toutes mes prières, parce que je suis... pour le respect des lois, mais il faut qu'il y ait des gens qui contournent ces lois pour montrer qu'il faut les améliorer dans le sens des plus démunis, dans le sens de ceux à qui on refuse la possibilité de s'exprimer. Et c'est pour ça que je vous salue en toute fraternité, et c'était signé Henri Grouez, je ne sais pas qui c'était, là, Henri Grouez, et au-dessous c'est dit l'abbé Pierre. Alors, pour un vieil athée breton comme moi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de voir maintenant toutes les reconnaissances et les hommages et les trucs pour ces films qui n'ont pas pu être vus par beaucoup de gens. Mais maintenant, il y a l'hommage, le prix de la SCAM pour l'ensemble de mon œuvre. Il y a le Grand Prix Tolérance de l'UNESCO pour le film que les Algériens ont fait avec mes images. Il y a l'Hermine de Bretagne qu'on me donne, que l'Institut culturel de Bretagne me donne. Bon, ça fait plaisir, mais en fait, ça fait plaisir, mais ça sent vachement le sapin. Parce que s'il y a toutes ces reconnaissances-là, c'est simplement parce que les gens disent maintenant, oh, ça va, il a 73 ans, il n'a plus de dents, il ne peut plus mordre, allez hop, on peut en reparler. Voilà, mais ce n'est pas tout à fait fini.
On t'amènera devant une vieille caserne, tu entreras par la petite poterne. À ce moment-là, mets ton drapeau en berne, t'auras déjà le bâton dans ta giberne. Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au cou. On prend proposera une paire de godasses, des godillots ou bien des patogasses. Il suffira que ton petit doigt y passe, tu seras déjà un début de bidasse. Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Fous pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au cou. On te foutra une veste militaire, un bout de treillis pour cacher ton derrière, et derrière toi on claquera la portière, à ce moment-là plus de machine arrière. Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Fous pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au cou. On te collera un fusil dans les mains, on t'apprendra à faire le pantin, et même si tu te crois le plus malin, on t'amènera à tuer des copains, comme si c'était de vulgaires lapins. Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Fous pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au.
Voilà, c'est toujours Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et on vient d'entendre là tout de suite Le Pied dans la Merde. C'est une des chansons, enfin la principale chanson du film Avoir 20 ans dans les oreilles. Une chanson écrite par Bernard Ramel, René Vautier et Yves Branleck et qui était là interprétée par Yves Branleck. Avoir 20 ans dans les oreilles, donc je rappelle, c'est un film de 72 qu'on peut trouver maintenant en DVD. Hein, comme d'autres films, on peut aussi trouver quelques extraits sur Internet, notamment Afrique 50, le premier film de René Vautier.